Il y a maintenant de cela quelques années, je faisais partie d'une équipe cynophile. Je précise que moi, je faisais partie de l'équipe, mais si vous me cherchez, vous avez un doute, moi, je ne suis pas sur la photo. Ça, c'était les chiens de notre équipe, des chiens qu'on appelait des chiens catastrophes. Alors, ce n'était pas les chiens qui étaient des catastrophes, mais c'était un binôme maître et chien pour intervenir sur, entre guillemets, des catastrophes, tremblements de terre ou explosions dans lesquelles des personnes étaient ensevelies ou étaient quelque part dans les bois et on ne savait pas où. Et moi, personnellement, j'avais un excellent chien, Jéricho, il s'appelait, pour un chien qui intervient sur des ruines, c'est un nom qui lui va particulièrement bien. C'était un chien extrêmement travailleur, dévoué, discipliné, et il avait aussi une incroyable capacité d'apprentissage. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre à un chien. Et je m'étais beaucoup entraîné avec ce chien, mais pour être opérationnel, pour être engagé sur des opérations, il fallait avoir obtenu un brevet national qui était donné après 10 jours de travail dans des conditions réelles assez difficiles et variées. Et pour prétendre se présenter à ce brevet, il y avait une longue série d'épreuves. Il y avait des présélections régionales, une sélection nationale, et ainsi de suite. Et en fait, le simple fait de pouvoir se présenter au brevet signifiait qu'en réalité, vous aviez déjà travaillé avec votre chien. Les compétences acquises, après des mois, voire des années d'entraînement, n'étaient simplement que validées dans le cadre du brevet. Et puis, donc, moi, j'étais parti pour cela, et nous devions être une vingtaine de binômes, donc maîtres et chiens, et nous étions encadrés par une dizaine de moniteurs et d'aides-moniteurs. Et moi, mon propre moniteur faisait justement partie de cet encadrement. C'était un homme qui avait des manières assez particulières de travailler, mais surtout, il avait une personnalité particulière. Ce qui faisait que tout le monde ne s'entendait pas forcément bien avec lui. On va dire qu'il n'avait pas que des amis dans le milieu du chien catastrophe. Et en particulier, il n'avait pas que des amis parmi les moniteurs qui étaient chargés d'encadrer le brevet. Et puis le premier soir, nous étions dans un réfectoire, tous ensemble, pour le repas. L'encadrement était à une table. Et puis nous, tous les autres, nous étions dans la salle répartis à droite à gauche. Et puis nous mangions depuis quelques minutes, l'ambiance était bonne, on apprenait à faire connaissance. Quand un moniteur que j'avais juste croisé l'après-midi m'interpelle, et il le fait de manière à ce que tout le monde entende. Il était à sa table, moi j'étais assez loin de lui, et il me parlait, mais de telle sorte que tout le monde comprenne bien ce qu'il disait. Et là, il me conseille de prendre des forces, de bien manger, parce que le lendemain, il m'en faudrait pour me bouger un peu plus afin de réussir à courir derrière mon chien. Alors, en effet, il dit qu'il m'avait vu travailler l'après-midi et à ses yeux, j'étais vraiment mauvais. Je n'étais pas derrière mon chien, donc comment est-ce que je pourrais faire pour interpréter ses réactions, pour le conduire, pour sa sécurité et comment faire pour interpréter qu'il avait trouvé une victime ? Alors, en réalité, il y avait plusieurs moyens de travailler avec un chien, ce n'est pas une science exacte, mais en tout cas, ma manière, à moi, n'était pas la bonne à ses yeux. Et à ses yeux, j'étais tellement nul qu'il s'étonnait même de ma présence ici, et il me pose une question, bien fort, mais quel est le moniteur qui a bien pu valider ma sélection ? En fait, il savait très bien qui m'entraînait. Et en fait, ce n'était pas réellement contre moi qu'il en avait. C'était aussi et même surtout contre mon moniteur. Il avait une dent contre lui, sauf qu'il n'avait pas eu le courage de l'affronter directement. Et mon propre moniteur n'était pas là au repas. Je ne sais pas où il était, mais il était pris par autre chose. Alors, c'est à moi qu'il s'attaquait. C'était bien plus facile. Alors là, il y avait un grand silence, un peu comme là. Et tout le monde avait perçu que dans l'accusation qui était portée contre moi, il y avait vraiment une vraie agressivité. Il y avait une hostilité à l'égard de mon moniteur, mais aussi à mon égard. Et tout le monde se demandait ce que j'allais bien pouvoir répondre à cela. Et là, moi, je voyais le sourire méprisant de ce moniteur qui était tout content de m'enfoncer ainsi aux yeux de tout le monde. Et puis, je voyais aussi le sourire narquois de quelques autres moniteurs à côté de lui qui n'étaient eux-mêmes pas des amis de mon moniteur et qui voyaient en moi une occasion injuste peut-être, mais en tout cas une occasion de régler leur compte et leur rancœur. Et puis, pour moi, ce qui était terrible dans ma situation, c'était que si j'avais plusieurs moniteurs contre moi, je n'avais aucune chance d'obtenir le brevet. Parce que quoi que je fasse, quelle que soit la qualité de mon travail, de toute façon, eux me sanctionneraient, émettraient un avis défavorable et je pouvais rentrer chez moi. Et on ne pouvait pas contourner, c'était un brevet national. Et la question qui m'avait été posée, qui avait validé ma sélection, n'avait pour but que de me disqualifier aux yeux de tous. Et moi j'étais là. Il fallait bien que je réponde à cette question, et tout le monde attendait cela. Grand silence. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit le nom de celui qui avait, semble-t-il en tout cas, eu la déplorable initiative d'inscrire mon nom sur la liste. Mais le nom que j'ai prononcé n'était pas le nom attendu par celui qui voulait me disqualifier. Parce qu'en fait, celui qui m'avait sélectionné, celui qui s'était porté garant de moi, ce n'était pas mon moniteur habituel, mais c'était un autre avec lequel je m'entraînais de temps en temps. Et lorsque j'ai dit son nom, je m'en souviens encore, j'ai vu le visage de celui qui m'accusait devenir blême. Et j'ai vu aussi le sourire narquois de ceux qui étaient avec lui disparaître de leur visage. Et là, j'ai vu qu'il se désolidarisait complètement de lui. Parce qu'en fait, celui qui m'avait sélectionné, ce n'était autre que le directeur technique national. Et c'était quelqu'un dont la compétence était reconnue par tous et son autorité était absolument incontestable, aussi bien au niveau national que mondial. C'était vraiment un personnage à part, un pionnier. Et remettre en question ma présence ici, lors du passage de ce brevet, ça revenait à remettre en question son jugement à lui et à contester son autorité. M'attaquer moi revenait à s'attaquer à lui. Et là, je dois dire que sachant par avance l'effet que ma réponse allait produire, c'est avec un grand plaisir que j'ai donné son nom, bien fort aussi, pour que tout le monde entende également, et j'ai rajouté quelque chose un peu de ce style-là. Si ma manière de travailler ne te convient pas, tu pourras aller lui en parler parce qu'il me semble qu'il arrive justement demain. Parce qu'il s'avérait en plus que c'était lui qui personnellement allait encadrer ce brevet-là et il devait arriver le lendemain. En quelques secondes, la situation avait complètement basculé et basculé en ma faveur. Mon accusateur et ses amis se sont faits tout petits et plus personne n'a osé remettre en question ma présence au brevet. Au contraire, j'avais été personnellement choisi par celui dont le jugement et l'autorité ne pouvaient pas être remis en question. Et d'un seul coup, j'avais pris de la valeur à leurs yeux et cela grâce à la valeur de celui qui m'avait choisi et qui s'était porté garant de moi. Eh bien, à certaines occasions de notre vie, nous apprécions tout particulièrement de pouvoir nous placer sous la protection d'une autorité forte, une autorité que personne ne peut contester. Eh bien, en tant que chrétiens, c'est ce dont nous bénéficions. Nous sommes sous la plus haute autorité qui soit, celle de Dieu, et en particulier celle de notre Seigneur Jésus qui s'est porté garant de nous. Comme cela a été dit précédemment, il y a 3 jours, c'était le jeudi de l'Ascension. Et l'Ascension, tout à l'heure vous avez hésité, l'Ascension c'est quoi? Ah mais bien, non mais tais-toi. Voilà. L'Ascension c'est la montée au ciel de Jésus. Et Luc 24, 50 nous rapporte un récit extrêmement succinct de l'Ascension de Jésus. Jésus les conduisit, il s'agit des disciples, il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Et le ciel dont il est question ici, ce n'est pas simplement le lieu au-dessus de notre tête, mais cela, le ciel correspond au lieu qui est inaccessible, inaccessible des hommes, le lieu où Dieu se trouve. Et lorsque Jésus est remonté au ciel, c'est pour aller retrouver Dieu, le Père céleste. Romains 8, 34 nous dit ceci: Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et bien c'est autour de ce passage que se portera notre méditation de ce matin. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Romains au chapitre 8. Si comme moi vous avez oublié votre Bible ce matin, vous en avez au fond de la salle. Ne vous inquiétez pas, ce qui est écrit petit, tout à l'heure ce sera écrit en gros. La Bible nous dit que Dieu le Fils a un jour quitté sa gloire, il s'est humilié et il est descendu du ciel, il s'est fait homme et a vécu comme un homme. Jésus s'est mis à notre portée, il est descendu jusqu'à nous, il est devenu semblable à nous dans un but précis, nous sauver. C'est ce qui est écrit au mur. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Et c'est en donnant sa vie, en échange de la vie de tous ceux qui croiraient en lui, que Jésus peut nous sauver. Jésus a donné sa vie, il est mort, mais il est ressuscité. Et lors du culte de Pâques, nous avons vu que la résurrection de Jésus prouve une chose: le prix que Jésus a payé pour nous sauver est un prix suffisant. C'est pour cela qu'il est ressuscité. Le prix payé était suffisant. Et après sa résurrection, pendant 40 jours, Jésus s'est montré à ses disciples et à plusieurs centaines de personnes. Sa résurrection était ainsi attestée, elle était certaine. Jésus est vivant. Et comme lui-même est ressuscité, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus ressusciteront aussi. Mais voilà, Jésus n'est pas resté parmi nous, Jésus est remonté au ciel. Eh bien, la présence de Jésus est pour nous l'assurance que Jésus prend soin de nous. La présence de Jésus au ciel nous invite à nous confier totalement en lui, d'où le titre de ma prédication de ce matin: Confions-nous en Jésus qui est au ciel, d'où il prend soin de nous. Et je vous propose de parcourir ce qu'implique la présence de Jésus au ciel à partir de Romains 8, et nous commencerons au verset 34 qui est affiché actuellement. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous mettons, alors dans notre foi personnelle, nous mettons souvent en avant l'amour de Jésus pour nous, et nous avons raison. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aimons aussi souligner la relation que nous avons avec lui. Jésus est vivant, Jésus est notre ami. Mais cette proximité avec Jésus, qui est vraie, de cette proximité, nous tirons parfois une mauvaise conclusion. Nous imaginons que Jésus se situe au même niveau que nous. Jésus est devenu une sorte d'égal avec lequel nous pouvons négocier. Sa volonté est placée au même niveau que la nôtre. Eh bien, le départ de Jésus et son retour au ciel nous rappellent à quel niveau il se situe par rapport à nous. Nous, nous sommes en bas. Lui, il est tout en haut. Et où est Jésus en particulier? Parce que nous lisons notre passage. Il est à la droite de Dieu. Dans la hiérarchie, Jésus est celui qui occupe la plus haute place, celle de Dieu. Philippiens 2, 9 à 11 nous dit ceci. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est le Seigneur. Jésus n'est pas notre égal, il est Dieu le Fils, il est aussi glorieux que le Père. Jésus est celui devant lequel nous devons plier le genou. Ce n'est pas en vain qu'il porte le nom de Seigneur. Le retour de Jésus au ciel, à la droite du Père, nous rappelle que notre Sauveur est aussi notre Seigneur. Jésus est la plus haute autorité, celle devant qui tout genou fléchira un jour. Mais nous, notre privilège, en tant qu'enfants de Dieu, notre privilège est de plier le genou, non pas par peur, mais par amour. Non pas sous la contrainte, mais volontairement. Ne confondons pas Jésus avec un copain. Jésus s'est fait notre ami. Mais Jésus est aussi notre Seigneur, celui qui règne en nous. Est-ce que Jésus a autorité sur notre cœur ou sur notre vie? Très clairement, Jésus est en haut. Et cette autorité, il ne la déléguera à personne d'autre. Que Jésus soit notre Seigneur. Jésus est à la droite du Père. Il est la plus haute autorité devant laquelle chaque créature devra un jour rendre des comptes. Mais chose absolument extraordinaire, privilège inouï pour nous, cette autorité nous est favorable. Cette autorité se porte personnellement garant de nous et intervient en notre faveur. Jésus est au ciel, il est à la droite de nous et il intercède pour nous. La présence de Jésus au ciel est une excellente chose pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Jésus intercède pour nous. Alors il y a plusieurs manières d'interpréter cela, mais ce qu'il nous faut retenir, c'est que par sa présence au ciel, Jésus intervient en notre faveur, et en particulier face à nos accusateurs. Satan et bien d'autres puissances voudraient nous accuser devant Dieu afin que nous soyons condamnés pour notre péché. Ils voudraient ainsi nous disqualifier aux yeux de Dieu. Mais surtout, et je pense à un autre accusateur, surtout celui qui parfois nous accuse, ça peut être nous-mêmes, où nous nous sentons disqualifiés. Nous devons nous rappeler que Jésus est celui qui intercède pour nous. Jésus s'est porté garant de nous. Si Jésus lui-même ne condamne pas ceux qui lui appartiennent, alors qui les condamnera? Si Jésus ne nous condamne pas, alors qui nous condamnera? Personne. Personne ne peut plus nous condamner. Parce que nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons donné notre vie en échange de sa propre vie, sa vie qu'il a donnée à la croix. Et le prix payé par Jésus était pleinement suffisant. Aussi, il est ressuscité, il est retourné au ciel, et ainsi maintenant, il intercède personnellement en notre faveur. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus est au ciel, d'où il intercède en notre faveur. Vous rendez compte à quel point c'est quelque chose qui est incroyable pour nous. Nous avons un intercesseur au ciel. Élargissons maintenant un peu notre perspective et voyons ce qu'implique la présence de Jésus au ciel. La présence de Jésus au ciel nous permet, à nous qui sommes sur cette terre, de prendre un nouveau départ dans la vie, de prendre un nouveau départ avec Dieu. Parce que maintenant, aux yeux de Dieu, nous sommes déclarés justes. Jésus est celui qui nous justifie aux yeux de Dieu et aux yeux de toutes les puissances. Je lis les versets 30 à 33. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons donc ? Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Et parfois, nous ne sommes pas très fiers de notre passé, même des fois pas très fiers de notre présent. Nous pouvons parfois avoir même honte de ce que nous avons fait. Il y a des fois des valises qui sont bien lourdes. Et nous pouvons parfois nous-mêmes nous condamner pour l'éternité et porter notre culpabilité à jamais. Ça, c'est ce que ressentent nos cœurs, peut-être. Mais si jamais nous nous sommes tournés vers Jésus, si Jésus est mort pour nous, alors Dieu nous voit sous un autre regard. Dieu nous voit maintenant totalement justes. Peut-être que nous pensons qu'il faudrait que nous portions pour toujours devant Dieu le poids de nos fautes et de nos erreurs. Eh bien, Jésus-Christ nous déclare justes, ou plus exactement, en Jésus-Christ, par notre foi en Jésus, Dieu nous déclare justes. C'est Jésus qui a pris sur lui notre propre culpabilité, et grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes maintenant déclarés justes. Et déclaré juste par qui ? Déclaré juste par Dieu lui-même. Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Nous sommes déclarés justes par Dieu lui-même. Et cela signifie que quel que soit notre passé, nous pouvons prendre un nouveau départ avec Dieu. Dieu nous offre une nouvelle vie avec lui. Il y a des gens parfois qui pour essayer de mener une nouvelle vie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent à l'autre bout du monde. Ils se disent, ici, maintenant, c'est fichu, avec ce que j'ai fait, avec le regard que les gens portent sur moi. Il faut que je recommence ailleurs. Ils partent à l'autre bout du monde. Eh bien, Dieu nous offre une chose extraordinaire, c'est de pouvoir prendre un nouveau départ avec lui. Parce que Dieu, en Jésus-Christ, nous voit juste maintenant. Dieu n'est plus contre nous. Mais au contraire, Dieu est maintenant pour nous. Dieu est pour nous. Voilà la disposition de Dieu par rapport à nous. Jésus est au ciel. Nous sommes considérés comme justes aux yeux de Dieu. Dieu est pour nous. Et cela signifie aussi que nous pouvons nous présenter ainsi librement devant Dieu. Et nous sommes accueillis alors par Dieu. Comment ? Accueillis les bras ouverts. Parce que Dieu nous considère comme justes, Dieu ne se souvient plus de notre péché, Dieu nous est favorable, une nouvelle vie, un nouveau départ avec Dieu s'offre à nous. Élargissons encore un peu notre perspective. Puisque Jésus intercède pour nous, puisque Dieu est pour nous, alors cela signifie que Dieu prend soin de nous. Et les soins de Dieu pour nous ont pour objectif de nous faire de plus en plus ressembler à Jésus. Versets 28 et 29. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Il me semble que parfois nous comprenons mal le verset 28. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous pensons qu'il faudrait, en tout cas, que ce verset veut dire que chaque événement qui nous arrive est une bonne chose. Et que nous devrions dire merci Seigneur pour toute chose qui nous arrive. Ce que nous dit ce verset, ce n'est pas que tout ce qui nous arrive, ou tout ce qui nous est arrivé, ou tout ce qui nous arrivera, est une bonne chose destinée à notre bien. Il y a des choses qui sont mal et que jamais Dieu ne considère comme un bien. Le viol est un mal, le meurtre est un mal, le vol est un mal, la trahison est un mal, l'injustice est un mal. Et lorsque cela nous arrive, jamais Dieu ne considère que c'est un bien. Jamais dans la Bible, Dieu n'appelle bien ce qui est mal. Et jamais Dieu ne dit que le péché peut apporter quelque chose de bien. Jamais. Mais ce que nous dit ce verset, ce n'est pas que tout ce qui nous arrive est bon. Mais ce qu'il nous dit, c'est que quoi qu'il arrive dans notre vie, les bonnes choses comme les mauvaises choses, quoi qu'il arrive, Dieu fera contribuer cela à notre bien. Et en particulier, Dieu fera contribuer toutes choses afin que se réalise le merveilleux plan qu'il s'est fixé pour nous, nous transformer, nous faire devenir de plus en plus comme Jésus. Nous sommes prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Jésus est au ciel, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas abandonnés sur cette terre. Dieu nous rejoint là où nous en sommes, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et à partir de cette vie qui est la nôtre, à partir de notre situation, Dieu nous accompagne et Dieu va intervenir afin de nous aider à rebondir et de devenir de plus en plus conformes à Jésus. Parce que Jésus est au ciel et qu'il intercède pour nous, Dieu nous vient en aide et fait contribuer chaque chose afin que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Et si nous élargissons encore notre perspective, nous voyons que c'est par son esprit qui vit en nous que Dieu agit. Avant de partir au ciel, Jésus a dit cela à ses disciples en Jean 16, verset 7. « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et le défenseur dont il est question ici, c'est le Saint-Esprit. Jésus est maintenant au ciel, et cela signifie que sa présence ne se limite plus à un lieu précis, sur la terre, comme lorsqu'il était au milieu de ses apôtres. Mais maintenant, Jésus est encore plus proche de ses disciples. Il est présent en chacun d'eux par son Esprit. Et l'Esprit de Jésus qui vit en nous intercède en notre faveur, et en particulier lorsque nous ne savons plus quoi faire. Versets 26 et 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Dans notre vie, il peut arriver que nous soyons confrontés à des situations qui nous dépassent totalement. Nous percevons qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bonnes, qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Mais nous ne savons pas quoi faire dans une telle situation. Nos cœurs et nos pensées sont troublés et nous ne savons même pas dans quel sens prier. Ça nous arrive, ça, des fois, parfois. La situation est tellement complexe, on perçoit qu'elle n'est pas bonne, mais on ne sait même pas ce que nous devrions faire. Nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit qui est en nous connaît notre désarroi, il voit notre souffrance, et le Saint-Esprit qui vit en nous intercède lui-même pour nous auprès de Dieu. Nous ne savons pas concrètement ce que nous devons demander, mais le Saint-Esprit qui est en nous, qui perçoit notre souffrance, qui voit aussi notre désir, notre souhait que Dieu intervienne, que les choses aillent dans le sens de ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu, eh bien notre esprit, l'esprit qui est en nous, intercède pour nous en notre faveur. Jésus est au ciel et le Saint-Esprit qui est en nous intercède pour nous auprès de Dieu. Et la conclusion de tout cela, c'est que la présence de Jésus au ciel est l'assurance vie de tous ceux qui ont donné leur propre vie à Jésus. Rien, absolument rien, ne pourra nous arracher des mains de notre Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous dit la suite de notre passage, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de Christ. Rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de Dieu. Ni les puissances invisibles ou visibles qui voudraient nous accuser devant Dieu, ni notre propre sentiment d'indignité, ni les drames ou les difficultés de notre vie, ni notre désarroi face à des situations qui nous dépassent et pour lesquelles nous ne savons pas quoi faire, ni même comment prier. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et pourquoi cela? Parce que Jésus est l'autorité suprême qui prend position en notre faveur. Et notre passage souligne aussi la divinité de Jésus à la question « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Le texte répond « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. » Celui qui se porte personnellement garant de nous, c'est Dieu lui-même dans la personne du Fils. Jésus est celui qui prend notre défense, qui intercède pour nous. Devant toute autorité qui voudrait nous accuser, Jésus prend position et il dit « Voici celui que j'ai choisi et que j'ai appelé à me suivre. Voici celle pour qui j'ai donné ma vie, qui m'a donné la sienne en retour et qui m'appartient personnellement. Voici celui que je déclare juste. Voici celle à qui je suis tellement associé, tellement attaché, que mon propre esprit habite en elle. Qui viendra me reprocher mon choix? Qui viendra contester mon jugement? Qui viendra l'arracher à mon amour? Parce que Jésus a pris personnellement position pour nous, parce que Jésus se porte garant de tous ceux qui se sont confiés en lui, absolument rien ne pourra nous séparer de son amour. Rien, sauf peut-être nous. Nous maintenant peut-être une certaine distance entre Jésus et nous, la distance du doute, la distance du péché. Peut-être ne nous sommes-nous pas complètement confiés en Dieu. Il y a parfois des domaines de notre vie que nous gardons pour nous et que nous ne voulons pas donner à Jésus. Ce que nous gardons pour nous se glisse entre Jésus et nous. Peut-être sommes-nous tentés de nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le péché est présenté comme une tentation. Il y a des choses qui nous tentent. On a l'impression que la solution, c'est de nous éloigner de Dieu. Le péché n'est jamais la bonne solution. Ou peut-être que nous avons perdu espoir en Dieu. Nous sommes submergés par le doute, écrasés par la culpabilité. Quelle que soit notre situation, ne commettons pas la folie de nous détourner de Dieu. Gardons espoir. Gardons espoir parce que Jésus s'est personnellement engagé en notre faveur. Jésus en personne se porte garant de nous. Jésus nous a totalement justifiés. Jésus intercède en notre faveur. Dieu fait concourir toutes choses dans notre vie afin que cela puisse contribuer à nous rapprocher de lui. Et le Saint-Esprit qui vit en nous fait monter nos soupirs vers Dieu. Jésus, notre Seigneur, règne au ciel. Il sait tout de nous. Il nous appelle. Il nous tend la main. Alors, répondons à son appel. Restons-lui fidèles et saisissons sa main afin de ne plus jamais la lâcher. Confions-nous en Jésus qui est au ciel, d'où il prend soin de nous. J'aimerais vous proposer la personne chargée de l'heure ici, mon épouse, me fait signe que non. J'aimerais simplement que nous puissions, au cours de cette semaine, nous rappeler de quelle est la position de Jésus pour nous. Où se situe-t-il dans la hiérarchie de l'univers? Et si jamais nous nous sommes confiés en lui, alors absolument rien de notre vie n'aura le pouvoir de nous arracher à son amour. Aussi cette semaine, confions-nous en Jésus. Amen. Et bonne semaine à tous.